Un cardinal qui ne croyait pas à l'enfer.
La nuit de juin commençait à pâlir. Déjà, du côté de l'est, une mince frange grise au pied du ciel annonçait l'aurore qui allait bientôt se lever sur la cité de Lyon. C'était l'heure où les charrois se mettaient en marche dans les campagnes avoisinantes pour porter vers la ville les légumes et les fruits. L'heure où les chouettes se taisaient et où les passereaux ne chantaient pas encore. C'était aussi l'heure où, derrière les étroites fenêtres d'un des appartements d'honneur de l'abbaye d'Ainay, le cardinal Jacques de Haize songeait à la mort. Le cardinal n'avait jamais eu grand besoin de dormir, mais avec l'âge, ce besoin ne cessait de s'amenuiser. 3 heures de sommeil lui suffisaient amplement. Peu après minuit, il se levait et s'installait devant son écritoire. Homme d'intelligence rapide et de savoir prodigieux, rompu à toutes les disciplines de la pensée, il avait composé des traités de théologie, de droit, de médecine et d'alchimie qui faisaient autorité parmi les clercs et docteurs de son temps. En cette époque où la grande espérance du pauvre comme celle du prince était la fabrication de l'or, on se référait beaucoup aux doctrines de de Haize sur les élixirs destinés à la transmutation des métaux. Ainsi pouvait-on lire dans son ouvrage intitulé « L'élixir des philosophes » de telles définitions qui donnaient à méditer. Les choses dont on peut faire élixir sont trois, les sept métaux, les sept esprits et les autres choses. Les sept métaux sont soleil, lune, cuivre, étain, plomb, fer et vif argent. Les sept esprits sont argent vif, soufre, sel ammoniac, or piment, tuti, magnésie, marcassite. Et les autres choses sont vif argent, sang d'homme, sang de cheveux et d'urine, et l'urine de l'homme. Ou encore de simples recettes comme celle pour épurger l'urine d'enfant. Prends-la et mets-la en pot et la laisse reposer 3 jours ou 4. Puis la coule légèrement. Laisse encore reposer tant que l'ordure soit au fond. Et la cuit bien et l'écume tant qu'elle devienne de la tierce partie. Puis la distille par feutre et la garde en un pot bien étouffé pour la corruption de l'air. À 72 ans, le cardinal découvrait encore des domaines profanes ou sacrés dans lesquels il ne s'était pas exprimé, et il complétait son œuvre pendant que ses semblables dormaient. Il usait à lui seul autant de cierges que toute une communauté de moines. Au long de ses nuits, il travaillait aussi à l'énorme correspondance qu'il entretenait avec nombre de prélats, d'abbés, de juristes, de savants, de chanceliers et de princes souverains à travers l'Europe. Son secrétaire et ses copistes trouvaient au matin leur labeur préparé pour la journée entière. Également, il se penchait souvent sur les cartes astrologiques de ses rivaux à la tiare, les comparait à son ciel personnel et interrogeait les planètes afin de savoir qui deviendrait pape. D'après ses calculs, ses plus fortes chances personnelles se plaçaient entre le début d'août et le début de septembre de l'année présente. Or, on était déjà le 10 juin et rien ne semblait se dessiner. Puis venait le moment pénible d'avant l'aube. Comme habité du pressentiment que ce serait à cette heure-là qu'il lui faudrait un jour quitter le monde, le cardinal éprouvait alors une angoisse diffuse, un vague malaise, tant du corps que de l'esprit. La fatigue aidant, il s'interrogeait sur ses actes accomplis. Ses souvenirs lui présentaient le développement d'une extraordinaire destinée. Issu d'une famille bourgeoise de Cahors, et ayant embrassé l'état ecclésiastique, il semblait à 44 ans devenu archiprêtre au sommet de la carrière à laquelle il pouvait raisonnablement prétendre. Or, sa fortune n'avait pas encore débuté. L'occasion s'étant offerte de partir pour Naples en compagnie d'un de ses oncles, qui allait y faire commerce, le voyage, le dépaysement, la découverte de l'Italie avaient agi sur lui d'étranges sortes. Quelques jours après avoir débarqué, il entrait en relation avec le précepteur des enfants royaux, se faisait son disciple et se lançait dans les études abstraites avec une passion, une agilité de compréhension, une souplesse de mémoire qu'eussent pu lui envier les adolescents les mieux doués. Il ignorait la faim, tout comme il ignorait la nécessité du sommeil. Bientôt docteur en droit canon, puis en droit civil, son nom avait commencé de se répandre. La cour de Naples recherchait les avis du clerc de Cahors. Après l'appétit de savoir, lui était venu l'appétit de puissance. Conseiller du roi Charles II le Boiteux, grand-père de la reine Clémence, puis secrétaire des conseils secrets et pourvu de nombreux bénéfices ecclésiastiques, 10 ans après son arrivée, il se trouvait nommé évêque de Fréjus, et un peu plus tard accédait à la fonction de chancelier du royaume de Naples, c'est-à-dire de premier ministre d'un état qui comprenait à la fois l'Italie méridionale et tout le comté de Provence.